Le son des bulles sur RCN.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Le son des bulles, l'émission entièrement dédiée à la bande dessinée sur RCN 90.7. On est vraiment très heureux de vous retrouver pour cette première année de l'année 2026. Si, si. Et on vous souhaite une très, 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 bonne année.
Très bonne année à tous, les amis.
Et oui, et puis on espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous vous êtes bien reposés et que vous en avez profité pour lire quelques bandes dessinées bien au chaud, à l'abri de ce froid polaire. Il y en a certains autour de la table qui sont bien placés pour en parler de ce froid polaire.
On vient d'attendre 20 minutes devant la porte qu'on nous ouvre, comme voilà. Ça les auditeurs sauront.
Voilà, voilà. Mais comme ça, vous êtes en forme.
Oui. Et bien c'est prêt. Chiant.
Et figurez-vous qu'on est dans notre 8e année. 8e année du son des bulles, puisque ça a commencé le 8 novembre 2018.
On est plus jeune.
Tempus voilà. Fugit.
Tempus Fugit, bah justement, Charles, parce que toi, tu faisais partie de la première émission.
Ah,
et oui, on a des preuves. Et est-ce que tu te rappelles de quoi tu as parlé?
Bah, j'étais en short, en culotte courte.
Et. C'était il y a que 8 ans. Hein,
ah ben, je mélange. Je suis certain, on a parlé de bande dessinée. Ah, voilà, je me rappelle bien.
Quelle mémoire. Mais quelle mémoire.
Quel homme.
Non, tu as, en fait, vous aviez parlé des éditions Artima.
Ah oui, c'est vrai. Oui. Je suis un fan des noirs et blancs, oui, parce que j'avais raconté que c'est ce qu'on échangeait à l'école. Et justement, les Artima étaient assez malins. C'était juste la taille d'un cahier d'écolier.
Oui.
Et on pouvait les mettre comme ça dans l'école pour. pendant qu'il y avait une récitation, on regardait, nous, les aventures de. Bon, c'était. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était Bill Audace, enfin, des noms comme ça. Enfin, il y en avait tout un tas. Oui, voilà.
Oui. Bah, on pourrait presque refaire la même émission qu'en 2018. Hein. J'ai commenté parti. Donc alors, Charles, tu es là. Ensuite, je ne sais plus dans mon conducteur. Ah oui, on va continuer la présentation par ordre alphabétique. Inversé du prénom, du coup, j'avais pris comme ça. Et j'appelle Joris, notre spécialiste manga. Bonjour Joris, bien reposé.
Bonjour Olivier. Très bien et toi?
Ouais, impeccable.
Bonjour Joris.
À la technique aujourd'hui aussi alors.
Oui, aussi à la technique en même temps, oui.
Bon, super. Et ensuite, celle qui ne s'est pas cassée la voix, mais bah, les pieds, le pied.
voilà.
Françoise. Ça va Françoise?
Eh ben oui. Ouais. A priori, la cheville, mais le reste, ça va.
Oui. Bon, bah, c'est bien. Le reste, ça va.
Comme d'habitude. Prête de vous voir. Prête à tout.
Prête à tout.
Et à son contraire.
D'accord. Bah, voilà, comme ça, au moins, on est prévenu. Et puis, bah, celle qui est toujours à l'affût de l'actu de la BD, Francine.
Bonjour à tous et bonne année.
Et bonne année, Francine. T'as passé de bonnes vacances aussi? Un bon séjour?
Très bien.
Oui. Ouais. T'as lu des BD?
Un peu, mais surtout des romans.
Ah ouais,
eh ben, c'était des vacances, donc j'ai lu des romans.
Ah bah voilà, on enlève les images, hop, ça va quand même. Et puis, eh bien, bonjour également David, qui est quand même le plus calé de nous en comics américain. Ça va David aussi?
Ça va. J'ai lu du comics, j'ai dessiné, voilà. Bref.
Bon bah super. Impeccable. Alors, on va commencer donc
Et puis
cette
Olivier,
émission.
Bonjour Olivier, comment tu vas toi?
Ah ben moi ça va bien, ouais ça va, je commence bien l'année. Et puis ben, j'ai lu pas mal de bandes dessinées, ouais, pour le coup. Moi j'aime bien quand il y a des images en fait, c'est pour ça que j'ai du mal quand il y a trop de lettres.
Trop de notes.
Mais bon,
trop
voilà.
De notes.
Trop de notes. Alors aujourd'hui on a choisi de vous parler des villes et des villages en bandes dessinées. Donc on fera ça tout à l'heure après la pause musicale parce que on va commencer par un gros point actualité avec Francine, notamment qui va nous parler de Détroit.
Détroit Roma. Alors oui, pour ce début d'année 2026, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de cocher au moins trois cases. Première case, l'album que j'ai choisi s'inscrit dans la thématique ville et campagne. Deuxième case, c'est une actualité récente puisqu'il est sorti en novembre dernier. Troisième case, le lien avec l'actualité régionale puisqu'une exposition lui est consacrée au CCAM de Vendeuvre depuis aujourd'hui et ce jusqu'au 20 mars. Alors je veux parler évidemment de l'époustouflant album Détroit Roma.
Alors Détroit, D-E-T-R-O-I-T et pas D. 3, le chiffre 3.
Non, la ville. Bien sûr, la ville, puisque nous sommes en ville et campagne. Donc, Détroit Roma, écrit et dessiné à quatre mains par Hélène Usdin et Bonnie, paru aux éditions Sarbacane. Alors, Hélène Usdin, artiste protéiforme, illustratrice, photographe, nous avait déjà subjugués en 2021 avec le magistral René au Bois Dormant. Elle signe là sa deuxième bande dessinée, co-scénarisée et co-dessinée, avec son fils, Joseph Bonissiran, lui aussi artiste pluridisciplinaire, puisqu'il est à la fois compositeur, scénariste, artiste visuel, multi-instrumentiste et développeur sonore. À noter aussi qu'Alanis connaît très bien Détroit, puisqu'elle s'y est rendue en 2014 pour une exposition au Musée d'Art Nouveau. Et en 2019, elle a été la première artiste en résidence à Art in Woodbridge, avec pour mission de réaliser un portrait collectif du quartier qui a donné naissance à un livre, We Are Woodbridge, publié chez Wayne State University Press en 2020. Alors ceci dit, revenons quand même à Détroit Roma.
Oui.
Alors cet album, à l'italienne XXL, par son format, mais aussi par sa pagination de plus de 350 pages, qui rappelle également le 7e art, une thématique qui parcourt tout le livre, est une véritable claque visuelle, tout comme l'avait été d'ailleurs le précédent album. Alors chaque planche est une par sa composition, par la technique utilisée, stylo, aquarelle, peinture, fait preuve d'une inventivité folle. Alors en prologue, une séquence symbolique forte, alors dessinée au stylo Bic, quatre couleurs, à la Émile Ferris. Dans une ville en ruine, une tigresse recueille deux bébés, deux filles plus précisément, l'une blanche, l'autre noire, dans un pneu. Référence bien entendu à la fondation de Rome par Rémus et Romulus. Ça, c'est pour Roma. La tigresse, quant à elle, évoquant les Detroit Tigers, l'équipe de baseball de la ville de Détroit. Alors, ça pourrait commencer là. C'est Becky qui raconte, et des débuts d'histoire, elle va en faire plusieurs avec des allers et retours, alors ça pourrait commencer là. Double page dans une salle de cinéma, sur l'écran, une salle de Thelma et Louise. Et l'album va nous embarquer à bord d'une vieille Ford Galaxy cabriolet rose dans un road trip d'un peu plus de 1000 km de Détroit, Michigan, à Rome. Non pas en Italie, mais Rome, en Géorgie. Road trip de deux amis âgés de 18 ans, Summer et Becky, à travers une Amérique en déclin, entre secrets de famille, quête de racines, transmission et résilience par l'art. Alors les deux protagonistes, Becky et son ami, combattent leur trauma via la création artistique, Summer par le cinéma, Becky par le dessin. Dans son carnet, Becky dessinera les personnages élus rencontrés. Ce sont ces dessins qui seront réalisés par Bonnie au stylo noir, d'un trait fragile, contrastant avec la luxuriance des planches d'Alanis Dunn. Becky et Summer. L'une, jeune afro-américaine, androgyne, pauvre, soutient son père, hanté par ses démons liés au scandale sanitaire de l'eau contaminée à Flint. L'autre, blonde, anorexique, borderline, dont la mère Gloria, starlette déchue et alcoolique, vit cloîtrée dans sa villa à se repasser sans cesse les films dont elle aurait aimé être l'héroïne, ne partageant... Alors ces deux héroïnes, évidemment, ne partagent pas la même couleur de peau ni la même classe sociale, mais par contre un autre lien les unit qu'on découvrira au fil de l'histoire. Le road trip aux couleurs chaudes est entrecoupé de nombreuses séquences de flashbacks quasi monochrones aux teintes froides, nous éclairant sur les tenants et aboutissants de l'intrigue, donnant chair non seulement aux deux protagonistes mais aux personnages secondaires. L'histoire de Gloria, la mère, par contre, nous est contée à travers des reproductions de scènes de ses films cultes. Alors, comme je ne veux pas en dire plus, c'est vraiment une expérience de lecture. Et comme pour René au Bois dormant, une fois l'album terminé, on n'a qu'une envie, s'y replonger encore et encore, car cet album hors norme à tout point de vue n'est pas prêt de nous livrer tous ses secrets. C'est un véritable chef-d'œuvre. Alors hier a eu lieu au CCAM le vernissage de l'exposition immersive Le Plein de Super, une expo de photos, de dessins, peintures réalisées autour de l'album des Trois Romains, suivie d'un concert dessiné avec évidemment Alanis Dunn et Bonnie. Alors sachez que l'expo se déroulera du 8 janvier, donc à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 20 mars et qu'elle est ouverte du mardi au vendredi de 14h à 18h ainsi que le samedi 7 mars aux mêmes horaires. Nous vous en reparlerons sur notre page Facebook, alors oui. Guettez ça. Et en attendant, lisez l'album, allez voir l'expo et histoire de vous mettre dans l'ambiance, vous pouvez télécharger sur n'importe quelle plateforme dès ce soir minuit la BO Summer Days signée Bonnie qui s'échappe de l'autoradio de la Ford Galaxy dès les premières pages de l'album.
Ah, ça bien, donne envie, bravo.
Ah, oui, il faut.
Ah oui, non, mais t'as l'enthousiasme.
Ah non, mais c'est...
Et c'était bien le vernissage.
Super, ah ouais, franchement.
Ouais.
Les mais petits, je vous en reparle.
On va très bien, merci beaucoup.
Francine.
Mais allez, lisez l'album, allez voir l'expo.
Tu peux faire passer, puisque tu l'as avec toi.
Oui, alors des fois, il y a les images qui défilent derrière aussi. Voilà, donc merci Francine. On va parler aussi, parce que l'actualité, elle est riche en ce mois de janvier, dans l'univers de la bande dessinée. Et notamment à la fin du mois de janvier, hein, parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette année, le FIBD, Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême, n'aura pas lieu. Ben pourquoi ? Bon, ça c'est une longue histoire. Toujours est-il qu'il y a des manifestations un peu off, comme on appelle ça, qui se produisent un peu partout. Et il y en a un qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le Festival BD et Illustration de Toul, qui va se dérouler samedi 31 janvier. Et dimanche 1er février, dans les locaux de l'atelier à Toul. Et Pierre Siri, qui est le patron des éditions Asian District,
qu'on avait reçu ici
il y a deux ans déjà, que le temps passe vite, s'est lancé dans ce pari un peu foufou. Alors, David, oui. Tu participeras, toi, à ce festival ?
Je participe à l'association Philactère, effectivement, avec de nombreux auteurs du fameux Abracadabran illustré qui sont présents, dont Charles était. Donc, toi, Charles, aussi, tu as une actualité, il me semble. Tu sors ton... Peut-être pas. Non.
Ah, aussi, on va parler de l'actualité de Charles pour le livre.
J'ai un petit peu.
C'est prévu à la fin du mois.
Ah bon, alors j'anticipe un petit peu. Ça va peut-être tomber dans le délai, mais peut-être pas.
Normalement, je devrais avoir les albums le 30.
Oh, alors juste pile poil.
S'il y a de la neige, ce sera le 3.
Bon, on aura le plaisir de t'y voir. Donc, voilà, je suis effectivement avec tous les membres de l'association Philactère, donc on verra comment ça se passe. Mais ça sera super, une belle ambiance.
Moi, je voulais ajouter, parce que j'en ai parlé, que le festival d'Angoulême qui n'a pas lieu, c'est une catastrophe économique, indépendamment du salon. Mais tous les intermittents, ceux qui ont préparé les expositions, les bandes dessinées qui sont là, les gens qui ont organisé, ceux qui ont loué les hôtels, c'est une catastrophe économique, intellectuelle en plus, hein, ça c'est sûr. Donc, moi, je vais apprendre à prier pour que ça refonctionne l'année prochaine à Angoulême ou ailleurs. Mais c'est un gros morceau qui dégringole, là. C'est vraiment. Une catastrophe.
Et c'était le seul aussi salon international.
Ben voilà, c'est ça.
Problème. Oui, non, mais... Où il y a toutes les études de droit, justement, cessation des droits, et où les éditeurs se rencontraient. Et c'est vrai que c'est...
C'est pas que Yann Paz, c'est vraiment... Ouais,
c'est tout ce qu'il y a autour aussi.
C'est pas juste un endroit où tu faisais dédicacer tes bouquins. Exactement. C'est aussi un endroit d'échange, toute la partie un peu émergée de l'iceberg.
Puisqu'on parlait justement de Trois Romains faisait partie des livres qui étaient sélectionnés, parce qu'il y a ça aussi pour le prix. Alors n'empêche qu'il est toujours en lice pour le prix du public France Télévisions.
Comme dit Francis, c'est important parce que c'est aussi, comme le prix Goncourt finalement, un auteur qui a quand même primé un festival comme celui-là, voit son aura se développer d'un seul coup au-delà d'une région, etc. C'est aussi en termes de vente aussi vachement de ressort pour lui. Donc c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas ce festival, mais
quand le Laura Baru a été sélectionné, on était tous gonflés d'orgueil parce qu'on avait fait des fanzines avec lui.
Bien sûr, ça rebondit sur.
Non, ça fait vraiment un autre.
Donc, faut être positif, je pense que ça reprendra et puis ça prendra une autre forme, ça sera peut-être plus clean. On démarrera sur des choses peut-être plus saines, etc. C'est peut-être pas, un mal.
Pour rien non plus qu'il n'y en a pas cette année. Hein, c'est parce qu'il y a quand même des raisons qui sont graves derrière.
Oui, il faut pas
le dire. Et donc, quoi. L'année prochaine, il y aura peut-être autre chose. Quoi,
Chose à table, à table rase.
Ben, fait ça. Un Angoulême fait.
À Nancy, pourquoi pas.
Qui remet ses cendres.
Et ben celui de Toul. Celui de Toul. Qui peut-être. Parce que celui d'Angoulême est né un petit peu comme ça, quoi. Un petit peu avec pas grand-chose de départ.
C'est ça.
Et il a pris beaucoup d'ampleur. Donc voilà, alors tout ça pour dire qu'à Toul, rendez-vous. On en reparlera aussi sur les réseaux sociaux de ce festival BD Illustration. On vous mettra les invités, les animations et le son des bulles avec RCN. Il sera présent pour rencontrer les auteurs, pour faire des interviews.
Et vous des pouvez, animations,
Surtout les interviews, on va discuter avec chacun des auteurs. On va enregistrer tout ça, et puis voilà, on mettra tout avec les... Et donc, si vous êtes présents, si vous venez à ce festival, venez aussi nous rencontrer, pour discuter, puis rencontrer les auteurs, etc. Donc, en reparlera.
Je crois qu'il y aura un espace dédié aussi pour échanger.
C'est ça. On aura un stand avec un kakémono... RCN, si on nous le prête. Et donc comme ça, on aura l'occasion et le plaisir de vous rencontrer. Voilà, donc ça, c'est le samedi 31 et dimanche 1er février.
Tout à fait.
Autre actualité, Une exposition, Le pouvoir par le pouvoir du manga. C'est une exposition qui se déroule à la médiathèque de Vendeuvre du vendredi 16 janvier au samedi 21 février. Alors cette exposition contient 16 panneaux qui sont basés sur le livre « Par le pouvoir des dessins animés » d'Elsa Brands, qui est paru aux éditions Cana en 2019, pardon, et qui proposera également une sélection de mangas de la même édition. Alors n'hésitez pas, pareil, à cette période-là, du 16 janvier au samedi 21 février, à vous rendre à la médiathèque de Vendeuve pour visiter cette exposition. Et pourquoi pas emprunter aussi quelques bandes dessinées. Voilà, c'est l'occasion fait le larron, quoi. Et vous ferez d'une pierre deux coups.
Et on peut faire trois coups en allant acheter la bande dessinée qu'on a adorée.
Aussi. Ah ouais. Et un quatrième coup, ce serait quoi?
De lire.
De l'apprécier et de racheter la suite.
Ah oui, la suite.
C'est ça.
C'est bien.
Donc voilà, vous avez aussi, vous aurez les détails sur le site du réseau Colibri des médiathèques du Grand Nancy. Et merci à Justine Lagneux de nous avoir passé l'information.
Une ancienne élève à moi.
Ah, comme quoi, voilà.
Elle a bien tourné, Francine.
La voix de son maître. Ils tournent tous bien, les anciens élèves.
Voilà. Alors, autre rendez-vous également, celui-ci se déroulera à la FNAC de Nancy, samedi 17 janvier à 15h, pour une dédicace de Pierre Pével et Stéphane Créti à l'occasion de la sortie du troisième tome de Gueule de cuir.
Gueule de cuir.
Alors, Gueule de cuir, en gros, c'est un roman qui mélange l'histoire de KPDP et des romans fantastiques avec un soupçon d'ésotérisme. Et comme le disent les auteurs eux-mêmes, c'est un peu Batman sous Louis XIII. Alors, Pierre Pével, c'est un romancier scénariste BD à qui on doit, entre autres, Le Paris des Merveilles, qu'on aurait pu mettre dans notre thématique, d'ailleurs, cet album-là. Et Stéphane Créti, lui, c'est un dessinateur hyper prolifique.
Ah, très prolifique. Stéphane, c'est une brute de combat, lui. Hein.
Ah, oui.
Ah, bah, il dessine tous les jours. C'est vraiment, il arrive à faire plusieurs albums en une année. Enfin, je ne sais pas comment il fait.
Il dessine beaucoup. On le retrouve notamment dans La Confrérie des Tempêtes, dans Néphilim, c'est un western un peu fantastique, La Pierre du Chaos et Orc et Gobelin, un peu d'heroic fantasy.
C'est donc assez fleuve, un peu comme ça, il y a Elfes, Orcs et Gobelins.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est les séries qui sont à long terme. Ouais. Donc voilà, puis si jamais Pierre Pével et Stéphane Créti nous écoutent, bah pourquoi pas qu'on pourrait les inviter là, quoi, il n'y a pas de souci.
Ils seront les bienvenus.
Ils seront les bienvenus.
Bah, bien accueillis.
Oui, tout à fait. Donc ça se passe le samedi 17 janvier à 15h à la FNAC de Nancy. Petite actualité aussi.
C'est dingue, il y en a plein au mois de janvier.
En janvier, c'est incroyable. Figurez-vous qu'il y a une vente aux enchères de bandes dessinées à l'hôtel des ventes Antiques Thermales à Nancy. Je ne sais pas si vous connaissez l'hôtel des ventes Antiques Thermales. Et donc le jeudi 22 janvier à 14h, il y a une collection qui sera mise en vente de jouets anciens et de livres, dont des bandes dessinées. Alors, on a contacté Sylvie Tedgen, la commissaire priseur qui organise cette vente, et elle nous a expliqué que voilà, cela concernerait des BD et des figurines des années 50 aux années 90. Alors, il y aura 3 ou 4 collections mises en vente, ce qui va représenter environ 150 bandes dessinées, dont le prix va varier généralement entre 2 et 200 euros. Après, c'est des enchères, parce que ça peut voler, au cas où, quoi. Et si les éditions sont originales ou assez rares. Voilà, donc il y aura peut-être l'occasion de trouver des pépites là-dedans. Alors concrètement, si ça vous intéresse, le catalogue de cette exposition, de cette vente, sera mis en ligne quelques jours avant sur le site interenchères.com. Et que physiquement, il sera possible d'aller voir aussi ses albums le jeudi matin, juste avant la vente, entre 10h et 11h30, voilà, pour repérer un petit peu les trucs que vous pourriez...
voler
Alors, non.
Ah non, pardon, moi, je me trompe toujours.
Ça marche
toujours
pas comme ça, une vente aux enchères. Il faut pas faire un rappel, quand même.
Dans vente aux enchères, il y a vente.
Enchères.
Ah d'accord.
Il y a enchères aussi.
La chair aussi.
La chair. Très, très chère, des fois.
Oui, des fois, oui. Parce que, alors, c'est vrai que Sylvie Tedgen me disait que les ventes précédentes, il y avait eu des albums qui se sont volés, quand même. Donc, Voilà, on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver dedans, mais ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Et franchement, voilà, si, qu'est-ce que je disais ? Voilà, je remercie aussi vraiment Sylvie Tedjen avec de sa gentillesse et du partage de ses informations.
Ouais, très, très bien. Mais écoutez, donc, voilà. un vraiment beaucoup de choses à faire au mois de janvier hein, pour les gens qui veulent s'occuper.
Ben, carrément, ouais. Donc ça, je rappelle, c'est jeudi 22 janvier à 14h. Voilà, et puis allez, juste une dernière, parce que ça... Même si on est un petit peu en marge de la bande dessinée, il y a la nuit ou les nuits de la lecture qui sont organisées du 21 au 25 janvier 2026. C'est la 10e édition et le thème, bah, c'est ville et campagne. Ah bah. Donc ça colle un petit peu avec...
Ils ont copié sur nous.
Quelle coïncidence.
Ben, c'est fou hein, quand même, hein. C'est fou. Alors, c'est organisé par le Centre National du Livre sur proposition du ministère de la Culture. Mmh. Et le but, bien sûr, c'est de promouvoir la lecture. Lire, c'est un vrai plaisir, n'est-ce pas?
Bah oui. Très très bien. Bah, j'avais participé une fois à la nuit de la lecture à la bibliothèque de Nancy. Ils avaient organisé quelque chose de sympa. Et je l'ai fait une fois, je crois, où il y avait plein d'auteurs qui étaient venus. Il y avait, c'était très intéressant. Là, il y avait plein de gens qui venaient la nuit. La bibliothèque était ouverte la nuit, quoi. Enfin, c'était très très sympa.
Moi, j'ai participé plusieurs années aussi.
C'est chouette. Hein,
en tant qu'encadrante. Ouais.
Et donc c'est bien parce que ça dure encore cette
festival. Quand,
alors ça c'est du 21 au 25 janvier. Alors il faut aller sur il y a un site qui est dédié hein, qui s'appelle nuitdelalecture.fr. Et bon concrètement il y a des événements qui vont se passer dans différents endroits. J'en ai repéré 2-3 là. Par exemple à l'association Réponse à Vendôme-les-Nancy. Il y a des lectures de contes qui vont être faites.
Ah, cool.
La médiathèque du Haut-du-Lièvre a prévu des lectures jeunesse par des élèves de 6e du collège Jean Lamour. Et à la bibliothèque Stanislas, la compagnie Narcisse, N-A-R et le chiffre 6, fera une lecture autour de la condition du paysan. Aujourd'hui, c'est en collaboration avec les élèves du lycée agricole de Courcelles-Chauzy. Voilà, donc vous allez sur le site Nuit de la lecture, vous trouverez plein de conseils. Plein d'infos et il y a notamment des conseils de lecture, dont des bandes dessinées, hein, parce que voilà, ça fait aussi partie du jeu. Et j'avais noté donc ils proposent dans leur liste, entre autres, la bande dessinée album Alit de Jérémy Moreau, Des Montagniers de Maxime Ken et Le Combat Ordinaire de Manu Larcenet. Mm-hmm. Voilà, donc une actualité riche.
Incroyable.
Et en plus de. Parce que j'avais noté faire une petite interview de l'album à l'occasion de la sortie de l'album de Charles.
Alors
Charles, une question ? Avant de faire la pause musicale.
Bien sûr. Oui.
Alors, quand tu sors cette...
Ben, c'est pour moi qui sors, justement. Oui, ben donc, c'est des employés, des ouvriers qui sont en train de travailler dessus en ce moment.
Ah, d'accord.
Donc, voilà, oui.
Ah oui, parce que c'est une technique de travail que tu as...
Voilà, donc, parce qu'ils en font plusieurs d'un coup. Oui, moi, j'en ai fait un en 2 ans.
Voilà.
Et eux, ils vont en faire, je ne sais pas, un certain nombre.
D'accord.
Et,
c'est parfait.
En une nuit.
Je vois. Donc, après, ils doivent être livrés, donnés à l'éditeur. Et puis, donc j'espère en récupérer quelques exemplaires.
Oui, tu nous en réserves un peu. Hein.
Au moins qu'on les voit.
Oui, au moins qu'on les voit. Mais bon, pour l'instant, j'ai téléphoné à l'imprimeur. Donc, bon, le bon à signer est tiré. Enfin, tout roule.
Tout roule.
Mais
tu n'as plus la main à partir de maintenant.
J'ai compris que je n'étais pas le seul dessinateur.
Ça s'appelle comment ? Il y a un titre ? Il y a un titre ?
Oui, ça s'appelle Ciel d'Aubaine. En fait, c'est une histoire qui concerne des légendes urbaines de Nancy.
Ah,
et, bon, donc il y en a qu'on connaît. Il y a l'histoire du Boudin des Boches. Tu connais ça ? C'était.
Non, vous connaissez. Bon, enfin. On va le découvrir. On va l'apprendre. C'est un album plein de surprises.
Plusieurs
y a une
légendes.
Et le Boudin des Boches.
Il y a des choses extraordinaires parce que par exemple, il y a une légende qui raconte qu'un soldat allemand avait été coincé dans le transporteur aérien de Maxéville. Je raconte cette histoire-là. Je pensais que c'était pas vrai, mais le directeur des usines Solvay m'a dit : mais oui, effectivement, il y a eu un soldat allemand coincé. On sait pas ce qu'il foutait là. Donc c'est tous des faits qui sont amplifiés, déformés, mais qui font une histoire, finalement, qui devient vraie maintenant qu'elle est écrite.
Ah ouais. Excellent, on aura plaisir à lire ça, Charles.
Et donc, tu avais fait le roman avant, mais et tu l'as adapté.
Voilà, parce que c'était donc Jean-Jacques qui avait pris la direction de la maison d'édition en question, et qui animait cette émission, qui m'a dit « Est-ce que tu veux refaire une bande dessinée ?» Alors, bon, donc comme je suis fainéant, j'ai dit « je vais prendre un roman que j'ai fait, je vais le mettre en BD », mais ça m'a pris du temps. C'est quand même compliqué.
Bah, l'adaptation n'est jamais simple, oui, c'est... Hein, comme tu joues.
Oui, parce que c'est
le passage d'un médium à l'autre.
En fait, ça n'a rien à voir. Disons que le travail d'écriture, on peut raconter, par exemple, des sensations, des choses. Par exemple, David pense à manger une choucroute. Bon, voilà. Oui, c'est... Donc c'est... ça, on peut l'écrire. Maintenant, dessine-le. Voilà,
Et alors, comment... voilà, c'est ça le problème. Comment tu vas le dessiner?
Alors, bon, oui, on peut faire des
mots,
on peut faire. Mais bon,
mais
il y a des trucs. Il faut revoir l'histoire, quoi. Faut aborder ça par un autre biais. C'est souvent ce qu'on fait quand on va au cinéma après avoir lu le roman. On se dit bon bah c'est pas ce que j'attendais parce que on a une vision différente de l'action. Puis c'est pas du tout le même rythme.
C'est pas la même temporalité.
Oui. Je me souviens que c'était pas vraiment des études, les études d'éducateur. Bon, c'était.
Ah, bah, c'est un métier.
Mais je vous rappelle qu'on avait une formation à l'écriture et le gars qui nous enseignait nous avait dit que la bande dessinée est un procédé bâtard. Mais c'est vraiment ça, c'est parce qu'il y a de l'écriture et du dessin. C'est deux trucs. Au départ, c'est un procédé bâtard.
Il peut emprunter énormément au texte ou alors énormément au dessin.
Le dessin à l'illustration est autre chose. On avait aussi parlé avec, je sais plus, un illustrateur que j'avais bien dit que la bande dessinée c'est quelque chose, mais l'illustration c'est
autre chose.
Ça n'a rien à voir. Donc c'est le mélange de l'illustration et du texte.
On raconte une histoire, quoi, en fait.
C'est-à-dire que c'est même la bande dessinée, c'est même plus que l'illustration, c'est carrément une narration graphique. On raconte.
Il y a le rythme, il y a la mise en page, Mais c'est vrai que ça m'a posé de nombreux problèmes. Parce qu'il y a des. On ne va pas dire qu'il y a des effets littéraires, mais quand on change de chapitre, il y a des effets, on attend de voir la suite. Et comment on fait ça en bande dessinée, c'est totalement différent.
Ah oui, complètement. Ouais.
Bah, on a hâte de voir ça. Hein.
Ah bah, écoute,
on a hâte de lire ça.
De lire. Oui.
Bon, merci beaucoup, Charles aussi. Avant de passer donc, du coup, au thème de l'émission, les villes et villages, qu'est-ce que vous penseriez d'aller à New York avec moi?
Ah bah, écoute, on y va.
On y va?
On prend le train.
New York en ce moment.
Oui, c'est pas juste.
Ça va de soi, avoir la vie partagée, tailladée, percée par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner, et saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chaque un autre rat. Que la vie bat en toi, tu m'emmèneras. Emmène-moi. Un jour j'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans les clubs il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois. J'y crois. Les flaques de peinture sur les murs en parois, la couleur des sons que tu bois. Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera que nulle part c'est chez moi. Chez toi, chez nous quoi. Un jour j'irai là-bas. Un jour chante un autre rat. Voici le cœur là.
Le son des bulles sur RCN.
Alors, c'était donc Un jour j'irai à New York avec toi du groupe Téléphone et rebaptisé Un jour j'irai à New York
Mais pas
une
tout.
Autre fois.
L'ambiance n'y est pas trop en ce moment.
Voilà. Donc, alors, on va en venir plutôt au thème de l'émission, les villes et les villages en bande dessinée. Alors, pourquoi on a choisi ce thème, ça, je ne sais plus. Qui l'a choisi ? On ne sait plus non c'est plus.
Dans le maestro.
Que le coupable se désigne.
Le coupable
se
désigne. Alors, on va. Je ne sais pas si ça vous a inspiré, mais on va commencer au moins par Françoise.
Eh bien, voilà, j'ouvre le feu. Et puis voilà, ben, le 8 janvier 2026, une chronique à faire sur une thématique initiale de dinosaures. Je le rappelle quand même, pourquoi pas. Mais suite à la demande générale, moi, une ou deux voix, voilà, le thème ville et village est arrivé. Bon, d'accord. Mais alors, ville et village, quoi. Et mais quasi immédiatement, c'est imposé pour moi Paris, capitale de notre beau pays, si perturbé certes, mais toujours aussi beau. Et pas avec n'importe qui, Paris, vu par Tardi, un de mes auteurs fétiches, que si je devais choisir entre lui et Baru, eh ben, je ne choisirais pas, je prendrais les deux, mon général. Voilà. Parce que Tardi aime Paris, et il l'a dessiné à tellement de périodes, et notamment les grandes périodes, quoi. 1870, avec la Commune de Paris, on y voit les murs, on y voit les bâtiments, les pavés. Alors les pavés soient encore assemblés en murs ou alors démontés pour servir à jeter sur l'ennemi. C'est le cri du peuple de Paris, son combat, sa souffrance, sa vie au quotidien, et parfois même en double page quand même. Quand on voit Paris, les dessins, c'est magnifique, c'est en double page. Il y a des bâtiments, certes, il y a des rues, mais il y a des affiches qui sont militantes pour la plupart. Il y a les cafés chez Léon, les communes, les commerces tels que le bouillon de Rosbif, les bouillons qu'on remet en actualité, là, les restaurants effectivement. Des adresses de déplacement, il y a des adresses partout, il dit je vais de la rue machin à la rue truc, je passe pelle. Il y a des petits placards sur les murs pour savoir quelle rue on est. On peut le suivre sur une carte. Il existe des tonnes de rues, des ponts, des passages qui sont nommés, donc on peut le suivre. Le quartier Saint-Sulpice qui a été détruit pour y mettre les halles. On y voit des calèches à chevaux, c'est le quotidien du peuple 1870 qui palpite là, c'est vraiment le mot, au-delà de la page d'histoire. Et on a dit d'ailleurs, pour Tardi, il y a deux Paris, le Paris de la rue de Pierre et le Paris de Chair. Et ben voilà, là on est dans la chair et dans la pierre et c'est magnifique à revoir. Alors après, plus tard, donc 1910, le Paris, hein, pas Tardi, avec son héroïne anarchiste, Adèle Blanc-Sec. Alors là, il y a des titres qui sont parlants. Démon sur la Tour Eiffel, le démon de la Tour Eiffel. On voit la Tour Eiffel quasiment à chaque page, avec des escaliers. On est dedans, on est devant, on est derrière. On est en dessous avec des voitures. On a la vue sur le Trocadéro. Bref, la Tour Eiffel est partout. On entre dans les immeubles, on voit les carrelages et les rampes d'époque. Le mobilier de cette époque, c'est le Paris de cette époque, du quotidien, hein, ce qu'aime Tardi, effectivement. Ah oui, l'énigme est dans tous les quartiers, avec les ponts et les égouts, on visite Paris. Et on y trouve d'ailleurs la maison d'Adèle Blanc-Sec, où Tardi habite, dans le 15e, rue Bézou. On apprend des noms de rues complètement improbables, on la reconnaît. Mais je demande toujours, de toute façon, je me demande, qui Adèle ou Tardi habite chez l'autre. Voilà. Et puis après, il y a donc la suite, 1850, avec mes chouchous en noir et blanc, comme des gravures, parce que Tardi, c'est pas de moi, mais j'aime bien la phrase, le virtuose du noir et blanc, peintre inégalé des ruelles sombres et des pavés luisants. C'est magnifique comme phrase, effectivement, et ça lui ressemble tellement. Donc, j'ai nommé la série de Nestor Burma, texte de Léo Mallet, un anarchiste du milieu, enfin, entre autres, anarchiste du milieu du 20e, et puis qui a été pris en film avec Guy Marchand, détective nonchalant, mais de choc. On déambule dans Paris, dans le Paris de 1950, que l'on peut encore reconnaître parce que Tardi travaille sur des photos. Il s'inspire des bâtiments, il s'inspire des enseignes, et si actuellement il y a une photo avec un McDo, paf, ça saute, et il met une boulangerie ou un bistrot, c'est-à-dire le quotidien de 1950. On peut trouver toutes les rues, vous prenez un plan, vous pouvez trouver les rues dont il parle, parce que les adresses sont données, les passages, les passerelles, les graffitis ont remplacé les affiches, puisque avant il y avait des affiches. Ben voilà, maintenant on écrit directement sur les murs. Les pubs évoquent des produits d'époque qui ont disparu. Bira, le charbon, les cabines téléphoniques dans les bistrots ou sièges. Du bonnet, c'est marqué vin tonique avec de la quinine. Je vous mets défi de marquer ça sur les murs aujourd'hui. Moi, je n'essayerai pas. Et en partout, des pavés. Je pense que Tardi le révolutionnaire a représenté ces pavés par centaines en vue d'une potentielle ou une ancienne émeute, mais c'est une théorie complètement personnelle. Alors mes favoris, c'est le dernier. Pas pour l'histoire, du Rififi à Ménilmontant. Du côté de Belleville, avec qui j'ai découvert le passage des soupirs, parce qu'il est toujours dans des rues qu'on ne connaît pas, qui relie la rue de la Chine à la rue des Pyrénées. Là, voilà, je ne sais même pas qu'il y ait des rues comme ça. Ça change la rue de Voltaire ou de la rue de la Publique. On est dans la vie d'aujourd'hui ou d'hier. On est dans l'histoire, la petite histoire des gens de chair, comme il disait tout à l'heure. Et ça se visite. On peut visiter En lisant Tardy, on peut visiter, effectivement. Et puis, entre tous, alors mon chouchou des chouchous, c'est Brouillard sur le pont de Tolbiac. Ça m'a valu une aventure. C'est un lieu qui est chargé d'histoire industrielle, de dessins hyper détaillés sur la bande dessinée, avec des poutres métalliques, des pavés. Ben, on ne se refait pas, je vous ai dit, les pavés, il y en a. Mais c'était bizarre, parce que moi, j'y avais été à une époque, et je ne retrouvais pas ce pont de Tolbiac, effectivement, oh, qui passait. J'ai bien passé 2 heures, au moins, 3 heures à chercher. Le pont de Tolbiac qui passe au-dessus de la Seine et celui qui passe au-dessus des rails, c'est le viaduc de Tolbiac qui a été démonté. Mais en attendant, c'était pas simple. Mais j'ai vraiment eu un mal de chien à trouver. Et le pont de Tolbiac, maintenant, c'est celui qui est près de la Bibliothèque nationale François Mitterrand. Voilà. Et ça m'a rassuré d'avoir trouvé ça parce que je m'étais baladée dans les coins là, effectivement, Brouillard sur le pont de Tolbiac, j'avais regardé. Et j'étais tombée sur un pont métallique et en contrebas du pont, il y avait alors un immense bâtiment, ça devait être les anciens frigos qui étaient tagués, ça faisait un peu résidence d'artiste avec des trompe-l'œil et tout. Et là, juste en dessous, il y avait une grosse baraque qui était délimitée par un grillage avec des poules, un chat, des transats et un barbecue en dessous du viaduc, quoi. C'était surréaliste à regarder. Et un peu plus loin, il y avait des canards le long de la Seine. Bref, c'était complètement, complètement dingue. Donc voilà, donc juste à côté, donc, les canards. Enfin voilà, donc j'étais vraiment... Burma, Tardy Malais était avec moi pour me faire visiter des trucs impossibles, en plus de la file de canards. Donc, comme je vous l'ai dit, j'avais franchi un espace spatio-temporel. C'était surréaliste. Alors, je donne un conseil. Prenez un Nestor Burma, celui-là, par exemple, sur le pont de Tolbiac. Prenez un plan, un vrai plan, et puis prenez ceux qui sont aussi dans les bandes dessinées, parce qu'il y a des plans d'époque, effectivement. Enfilez-vous ces rues, ces passages, les passerelles. Laissez-vous surprendre, déambuler. Tardy, c'est plus puissant que n'importe quel guide, et puis vous irez sur des rues qui sont secrètes ou qui sont banales, avec dedans peut-être des vrais morceaux du Paris historique qui s'offrira à vous. Ne vous privez pas.
Ah ben, bien sûr que non. Merci Françoise.
Merci voilà. beaucoup Françoise pour cette visite de Paris sur les chapeaux.
Ah, j'ai chaud.
On va pas glisser sur les pavés, attention, on a appris que les pavés sont glissants.
Une autre ville qu'on peut visiter, c'est Bruxelles avec Suiten. Effectivement...
Dans les cités obscures.
Entre réalité et imaginaire. Et il y a même un guide qui a été fait, un guide de Bruxelles qui a été fait par eux.
Mais tu nous l'avais dit, effectivement.
Il y a même des passages secrets entre la réalité et les cités obscures. Il y en a une station, il paraît. Arrêt métier, il paraît qu'il y a un passage. Peut prendre le livre et puis aller se balader à Paris avec, comme ça?
Ah bah oui, parce qu'il y a un plan, je crois. Il y a le plan tout à l'arrière. Je sais pas si ça doit être sur celui-là, c'est devant ou derrière, il y a le plan.
Ses semelles à prendre des photos de Paris. Etc.
Non, mais c'est comme ça que j'ai vu qu'il y a un pont de Tolbiac, il y a un viaduc.
Oui, c'est tous les lieux de
Paris. Oui, mais le viaduc, il n'existe pas. Hein. J'ai un mal de chien à trouver. Je me dis, mais je ne suis pas folle quand même. Mais pas complètement. Alors, faites-vous plaisir, c'est vraiment trop magnifique.
Merci beaucoup Françoise. Le viaduc donc qui n'existait pas, peut-être qu'il est dans la ville qui n'existait pas.
Bravo. Hélas pour moi, la ville qui n'existait pas, c'est la ville qui n'existe plus. Parce que donc c'est un album qui est sorti en 1977. Comme je suis un fan de Bilal, je l'ai acheté à l'époque, donc ça fait bientôt 50 ans. Et malheureusement, il y a des problèmes de place, comme tous ceux qui aiment bien la bande dessinée. Donc il y a un choix, j'ai fait un choix d'en mettre dans un abri qui n'était pas chauffé. Ce qui fait que, avant-hier, quand j'ai voulu chercher mon album, j'ai ouvert l'album et toutes les pages étaient collées. Vraiment, c'était... Donc j'ai pu sauver de la page 39 à la page 58.
Alors, appel à tout le monde, si vous trouvez un album, voilà. Faites un
donc,
cadeau.
Déjà, un conseil, c'est si vous êtes comme nous des fans de bande dessinée, assurez-vous de temps en temps les albums que vous avez mis dans des locaux, dans des soupentes, de temps en temps les sortir, les épousseter.
Pas en dessous de 10 degrés.
J'ai regardé tous les tardis, tous les Bilal. C'est vrai qu'il y a quelques pages qui ont souffert, quoi. Vraiment, ça c'est un problème.
Bon, on sait pas
pourquoi les pages se collent, c'est vraiment.
Il faudrait que tu ailles à la vente aux enchères jeudi, peut-être que tu vas le retrouver.
Non, mais je vais pas racheter tous les albums que. Ouais, bon.
Pas le problème de la conservation.
Ah non, ça c'est vrai.
Et puis où les mettre, hein? Où les mettre?
Alors,
parce que. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai.
Il y a la place.
Bien. Bon, alors, je vais quand même vous en parler de cette ville qui n'existe plus, parce que c'est une BD parue en 77. Oui. C'est une des premières que Bilal a fait. Alors ça représente, au départ, ce sont des ouvriers qui sont mécontents de leur sort, et tout va mal, ça se situe dans une ville du Nord. Bon, là aussi, il y a une ambiance à la Bilal, c'est pluvieux, c'est... déjà, quand on voit les dessins de Bilal, c'est comme des petites peintures, c'est extraordinaire. Enfin, vraiment, moi, je suis toujours scié. Bon... Alors, ce village, bon, connaît un grave problème économique, puisque le patron des deux usines qui font vivre ce village, enfin, c'est ce bourg, meurt. Et ce qui fait que, il y a une grave crise économique, tout le monde est malheureux, ça pleure à toutes les pages, ça pleut à toutes les pages aussi, etc. Donc, la fille de cet entrepreneur a une idée géniale, c'est qu'elle va faire une ville super protégée. C'est-à-dire que c'est une ville qui va être sous un dôme et les gens vivront là-dedans et ils seront à l'abri de tous les besoins. Donc ils produiront des trucs pour ces usines, mais ils seront vraiment super protégés. Et l'idée que développe Pierre Clissin, qui est le scénariste, c'est que en fait, ça peut pas suffire au bonheur des gens. En fait, ils se retrouvent dans une cage dorée. Et ils n'ont qu'une idée, au bout d'un moment, c'est de se barrer. Quoi, voilà. Donc c'est sur une soixantaine de pages, c'est toute cette évolution-là du désespoir de ne pas avoir une satisfaction matérielle, d'arriver à combler cette satisfaction matérielle, mais à vouloir s'échapper, parce qu'en fait, on n'est pas satisfait.
Ça rejoint un petit peu, je sais pas, dans la thématique, ça pourrait ressembler un peu au château des animaux. Il y a ce côté, on est un peu, c'est pas une tyrannie, mais il y a quelque chose, on est dans un endroit un peu fermé, comme
voilà,
ça.
Oui.
On peut pas en sortir.
Oui, surtout. Enfin, alors là, en plus, il faut voir comment c'est fait, parce que il y a des gardes armés autour. On peut pas se tailler. On est dans un truc où on doit être heureux. C'est-à-dire que ici, par exemple, on voit, il y a cette séquence où les gosses vont à l'école et il y a un manège. Et puis au bout d'un moment, les gosses, ils vont plus sur le manège, puisque c'est gratuit, on peut y aller tout le temps. Donc c'est plus intéressant. Voilà. Ce sont quelques pages que j'ai sauvées. Voilà. Bon, alors, je vais quand même vous parler d'Anki Bilal, parce que c'est l'extraordinaire dessinateur de cette série. C'est Anki Bilal, son vrai nom, c'est Enes Anki, comme tout le monde le sait, c'est un surnom yougoslave. Hein. Bon, je ne vais pas vous apprendre ça. Donc, il est né à Belgrade en 1951, et son père, qui était tailleur, a refusé d'adhérer au parti communiste yougoslave. Donc, il était dans le collimateur de la police de Tito. Il a demandé l'asile politique en France. Ils ont été acceptés, ils sont installés en France en 61. Et toute la famille Bilal a été naturalisée français en 67. Alors, en 71, Bilal, il gagne un concours de bande dessinée fait par le journal Pilote. Et à partir de ce moment-là, on va dire qu'il va se professionnaliser parce qu'il va faire un court séjour aux Beaux-Arts. Ça ne l'a pas trop intéressé, il y a été qu'une année, en 1972. Mais il va être pris en main par les dessinateurs de Pilote et il va commencer à bosser dans l'équipe des graphistes, sans rien publier. Et il va publier une première bonne idée en 1975, c'est le Bal Maudit. Et cette année-là, il va faire la rencontre de Pierre Cristin. Alors là, ça va être extraordinaire parce que c'est, on va dire, les deux pointures qui vont se mettre ensemble pour faire des bandes dessinées qui, à mon sens, ont révolutionné la bande dessinée. Vraiment, c'est là, il y a un choc, c'est autre chose. Il y a avant Cristin et Bilal, et puis après, bon, il y en a d'autres qui explosent d'autres pistes, notamment Tardy, etc. Mais dans ces moments-là, les années 70, il y a vraiment des choses qui sont... en rupture avec ce qu'on connaissait, c'était Tintin, Spirou, Black and Mortimer qui nous inspirait. Et là, on découvre autre chose. On est dans des univers différents. Alors, donc, ils s'engagent avec Cristin. Donc, ils vont produire des séries. Je vais en reparler plus quand je parle de Cristin. Dans les années 80, Bilal, lui, s'engage dans la création de séries personnelles. Alors, c'est La Foire aux Immortels, La Femme Piège, Froid et Créateur, Froid Équateur, ouais, voilà, donc c'est des bandes dessinées aussi qui sont très très intéressantes, une narration vraiment qu'on ne sait pas, c'est-à-dire que là il va mélanger les dieux égyptiens, enfin... c'est génial. Et pourtant, moi, la science-fiction, j'ai du mal, mais là, bon, je veux dire, j'accroche assez.
Ah, ça fait fantastique. Ouais,
parallèlement à la création de BD, Bilal s'intéresse aussi au cinéma et à l'opéra. En 85, il est contacté par Jean-Jacques Hano pour faire les recherches graphiques sur Le Temps de la Rose. C'est quand même bon aussi, c'est intéressant. Et en 89, il réalise un film, Bunker Palace Hotel, avec Jean-Louis Trintignant et Carole Bouquet. Alors, il a fait d'autres films. Il y a Tico Moon en 96, Immortel Aditem en 2004, qui reprend un peu la foire aux Immortels. Alors bon, bah, il a eu des tas de prix. Hein. Maintenant, c'est un dessinateur super reconnu, prix d'Angoulême, des prix internationaux, en veux-tu, en voilà. C'est vraiment une pointure de chez pointure. Et alors, bien sûr, je vais vous parler de Pierre Christin, on en a déjà parlé plusieurs fois ici, parce que c'est le scénariste incontournable qui a travaillé bon, avec les plus grands, avec Gottsinger. J'avais parlé de Christin quand j'avais parlé d'Annie Gottsinger. Il a travaillé avec Tardy, avec Bourg, avec Bouc, pardon, enfin, bon, tout avec les plus grands. Alors lui, Christin, c'est un universitaire de haut niveau. C'est-à-dire que, bon, bah, c'est... Bon, au départ, il était plutôt attiré par la littérature. D'ailleurs, il a un doctorat de littérature comparée. Et il est un des créateurs de l'école de journalisme de Bordeaux.
Oui. Voilà. Donc, je me rappelle aussi dans
Et ce qu'il y a, c'est que petit à petit, il va se mettre dans la bande dessinée... Dans les années 70, au début, il signe pas Christin, parce que c'était bon, un genre mineur, mais petit à petit, bon, avec des dessinateurs comme Tardy, oui, bien sûr, et Bilal, il va signer des œuvres. Alors, les premières qu'il a faites avec Bilal, c'est une série qui s'appelle... Alors, c'est une trilogie, Mémoire d'aujourd'hui, oui, c'est ça. Donc, là, la croisière des oubliés, Le vaisseau de pierre et la ville qui n'existait pas, voilà, qui n'existe plus pour moi, voilà. Et après, il va faire fin de siècle, les phalanges de l'Horde Noire, partie de chasse, et cœur sanglant aussi, c'est d'autres séries qu'il a fait avec Bilal.
Bon. Géopolitique, cette fois-ci.
Oui, c'est vraiment, bon, on voit que c'est orienté, on va dire. Mais, alors, il est également l'auteur d'une dizaine de romans qu'il a publiés dans les plus grandes maisons d'édition, Robert Laffont, Grasset, Flammarion, Albin Michel. Et il est scénariste de deux films, bon, bah, Bunker, Palace Hotel, qu'il a fait bien sûr avec Bilal, et Valérian, puisque c'est aussi le scénariste de Valérian, et La Cité des Mille Planètes, qui a été mis en scène par Luc Besson en 2017. Voilà. Alors, c'est pas fini, parce que comme...
Charles, il y a les petits camarades qui veulent aussi. Le temps passe, Charles.
Ah, pardon.
Ouais, je suis désolé. Parce que
pour l'émission sur Christin, c'est vrai que, comme tu disais, l'émission sur Christin, on peut effectivement peut-être la revoir en replay.
On va sur Christin.
Ouais, on avait fait une très belle émission sur Christin, oui. On en avait fait une au mois d'octobre sur lui.
On remettra le lien. Parce que, du coup, voilà, le retourne. Et puis, il faudrait qu'on parle des villes dans l'univers du comics.
Ah, bah, je veux bien. Alors, on y va. Alors, c'est parti.
Avec David. Oui, t'es le spécialiste de ça.
Ah, pas spécialiste.
Là, il y en a beaucoup des villes, non ?
Il y en a beaucoup. Alors, il y en a beaucoup de pas vrais, en fait. L'univers de DC Comics est un univers partagé qui a presque 90 ans. Dès l'âge d'or, des comics books se sont fortement inspirés des climats sociaux, politiques et préoccupations du monde réel, tout en apportant la part de fantastique recherchée par les lecteurs. Il a tout de même fallu inventer de nombreuses villes ou pays afin de développer des nouvelles intrigues et des personnages enfroissés des populations, en particulier habitant dans des villes réelles. Je vais voir avec vous une des plus populaires, notamment de l'univers DC, c'est Gotham City. Voilà. Si Marvel a toujours adapté des approches réalistes de ses histoires dans un univers sensiblement proche du nôtre, DC l'a distingué concurrente entre ses histoires dans un univers un peu plus fantasmé. Les villes bien réelles côtoient des villes fictives, souvent des lieux principaux des aventures d'un héros. Possédant son identité, son ambiance et ses problématiques spécifiques, Metropolis, Gotham City, Atlantis, Central City, Star City et bien d'autres, bien sûr, sont là-dessus. Alors, Gotham City ou simplement Gotham, c'est en feuilletant l'annuaire de New York que Bill Fingers, le créateur de Batman, trouva le nom de la ville de Batman. 1939, dans Batman numéro 27 de Detective Comics, c'est le lieu où la plupart des histoires du héros vont se dérouler. Gotham, qui étymologiquement veut dire, et c'est le Joker qui en parle, le lieu sûr pour les chèvres. Alors, du vieil anglais goat, la chèvre, et ham, home, la maison. Mais peut-on croire ce que dit le prince du crime ? Pas sûr. Gotham City serait, et je dis bien serait, bien localisé dans le New Jersey, et Metropolis, sa grande rivale, on va dire, dans le Delaware. Gotham est sans doute la ville la plus célèbre de l'univers de DC, étant le domicile de Batman, bien sûr. Inspiré par les plus sombres aspects de New York, Gotham est une métropole gothique et inquiétante, gangrénée par la criminalité et la corruption. Son atmosphère est une somme sombre et opposante qui reflète parfaitement la lutte constante de Batman contre le mal. Gotham est un personnage à part entière, avec ses quartiers malfamés, ses gargouilles menaçantes, son climat perpétuellement brumeux et nocturne. Cette ville représente la peur, le crime, la folie avec son célèbre asile d'Arkham. Elle est une ville la plus dangereuse d'Amérique. Je conseille la lecture de l'excellent ouvrage Gotham, le guide, alors, qui est ici. aux éditions Monolithe. C'est un guide réalisé par Xavier Fournier, un ami, et Alex Nikolovitch. De nombreux acteurs, autres auteurs, donc Nicolas Texier, mais, François Weistrater, et François Franz Stricher.
Je suis content d'avoir choisi Tarly.
Ouais, excusez-moi pour avoir accroché. Qui ont décrit Gotham quartier par quartier, historiquement, en redécoupant les infos disséminées dans des centaines de comics pour créer cette cartographie très particulière de la ville.
Mais qui c'est qui a mis en place, en fait, l'origine historique et imaginaire de Gotham?
La fameuse origine historique, elle est due à Alan Moore. Cette fois, on retrouve Alan Moore, scénariste de The Swamp Thing, on en avait parlé à une certaine époque, et le premier à avoir écrit historiquement l'imaginaire de Gotham. J'ai bien l'imaginaire, et pas... Ses successeurs ont globalement respecté ses origines historiques. La ville est fondée par un mercenaire norvégien en 1635, avant de passer sous autorité britannique. Alors là, ça sert le boulon. Là. Pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, Gotham est le site de batailles décisives et le lieu d'étranges sectes ésotériques où on siégeait, pour donner un aspect un peu surnaturel. Les Wayne, Bruce Wayne, sont des familles historiquement remontant à la création de la ville. L'architecte de la ville, d'ailleurs, qui est un ancêtre de Bruce Wayne, le juge Salomon Wayne, donnera à Gotham City son style Gotham, le fameux style néo-gothique, avec toutes ces gargouilles, etc. La ville possède un département de police, le JCPD. La police a longtemps baigné dans la corruption, des cadres ou simples agents sont impliqués dans des pots de vin, des infractions, trafic de drogue et autres meurtres. Bon, on n'y verra aucune similarité, bien sûr. Mais heureusement, James Gordon est le commissaire à des alliés, Batman bien entendu, tente d'éradiquer le crime. Et d'ailleurs, un bat-signal est installé sur le toit du commissariat. Le thème récurrent de Gotham est la corruption rampante dans les administrations, des ripoux en collusion et des super-vilains, la mafia. Avec le temps, Batman développe la Bat-Family, qui l'aide, bien sûr, devant la tâche immense qui l'attend, contre un crime toujours présent. Nightwing, Huntress, Barbara Gordon, la fille du commissaire Gordon, Batwoman, Robin et d'autres œuvres également, bien sûr, à Gotham et sous l'aval de Batman, bien sûr, toujours.
Lui le patron.
Toutefois, petite info quand même. Le premier défenseur de Gotham n'est pas Batman. Et oui, sachez-le, c'est Alan Scott, le Green Lantern de l'âge d'or des comics. Un reporter, un peu comme nous, un mec qui faisait de la radio. Enfin, un truc. Durant la Seconde Guerre mondiale et bien avant la naissance du Bruce Wayne. Gotham est peuplé de grandes familles criminelles. Les Falcone, les Italiens, les Maroni, les Sullivan, les Riley, des Irlandais. Bah, tous voulant leur part du gâteau, mais c'est sans compter la présence de Batman.
Et oui. Alors, et de quoi est composé Gotham City?
Alors, Gotham City, c'est quand même une archipel de 6 îles. Les trois principales, Uptown, Downtown, Midtown, et 3 autres petites. L'île de Arkham, sur laquelle on va trouver le fameux asile, où sont enfermés tous les criminels, les plus cinglés, Joker, Double Face,
Trump.
L'île de Blackgate, une prison horrible, et l'île de Tricorner.
On va se faire fusiller.
Gotham est un centre économique majeur au sein de l'univers DC. Industrie manufacturée, transport maritime, finance, beaux-arts, musées, galeries, joailliers. Mais le 19e siècle représente l'apogée de cette prospérité. Une industrie lourde qui garantit le plein emploi, une industrie de divertissement, en faisant un lieu de vie accueillant. Mais les usines ont fermé et la criminalité a comblé le vide. Les parcs d'attractions et les entrepôts abandonnés sont devenus le domicile des criminels. Le Joker, le Pingouin, Double Face, Mr. Freeze. Le crime s'installe et l'élite fortunée se déconnecte de plus en plus du commun des mortels. Tiens donc. La famille Wayne, pourtant, malgré tout, œuvre toujours avec des enquêtes tatives, des programmes philanthropes, s'efforçant d'empêcher la ville de sombrer un peu plus. Les rêves des Wayne a failli prendre fin dans une sombre allée un soir en sortant du cinéma. Mais le petit Bruce a survécu, devenant le protecteur de Gotham. Alors, bien sûr, je pourrais vite conseiller des lectures très rapidement. Alors, Gotham City, chez année 1, chez Urban DC, à lire absolument, qui se passe un petit peu avant la naissance de Bruce Wayne. Un superbe ouvrage, donc Gotham City Chronicle, le guide, Monolith, un ouvrage, mais vraiment de référence, qui est vraiment fait plutôt pour le jeu de rôle Batman, mais qui est un ouvrage absolument superbe, qui référence tous les petits endroits, même où le Joker va acheter chez Jouet. Enfin, c'est un truc de dingue. Un superbe boulot fait par Xavier Fournier et ses amis. Batman Year One, ce que j'ai ramené également, alors qui est à lire absolument, c'est la première année de Batman dans Gotham qui aurait pu très mal commencer parce que le premier sorti, il se fait désinguer. Enfin bref, mais vous en apprendrez plus en lisant le livre. Un autre ouvrage rapide, Batman Year One aussi avec les débuts de Robin. Alors là, c'est très très bon aussi. La super série Gotham en 100 épisodes que je vous conseille. Gotham, c'est le titre de la ville On peut peut-être la retrouver encore, pas sur Netflix ou sur d'autres. En tout cas, voilà, allez voir tout ça. Gotham, c'est une ville, c'est un personnage en soi. Il y aurait tant à dire, mais bon, le temps passe.
Et oui, le temps passe vite. Et c'est vrai que Gotham, c'est presque un personnage à part entière dans les histoires. Hein. C'est pas seulement un décor.
C'est vrai.
Je me tourne vers Joris.
Oui.
Est-ce qu'on a le temps, Joris?
Oui, je vais faire très vite.
Vas-y. Excuse-moi d'avoir.
Tu vas nous présenter quoi, Joris?
Oui, on va parler d'un manga qui s'appelle donc GU2NM. Donc, comment vous prononcerez-vous?
Gunmu.
Alors ça se prononce Gunma.
Gunma, en
voilà. C'est sorti entre 90 et 95, donc il y a 9 volumes, donc une série assez courte pour un manga. C'est sorti chez Glénat, donc en France, bien sûr, entre 95 et 98, dans la collection Akira. Donc la collection qui regroupe Akira, Ghost in the Shell ou encore, du coup, Gunma. Donc un manga plutôt science-fiction, dystopie, on voit un peu les thèmes. Donc là, en fait, ça se passe en 2012, l'histoire de Gun. Donc c'est une dystopie qui est un peu fondée sur une catastrophe naturelle qui est arrivée sur Terre. Et donc l'humanité est au bord de l'extinction, mais elle se relève avec un monde, une ville dans laquelle je n'aimerais pas être. C'est pour ça que j'ai choisi ce manga. C'est la ville de Zalem. Donc c'est une ville qui est suspendue. Une ville un peu volante qui surplombe une autre ville qui s'appelle Kuzutetsu, qui elle est une décharge. Donc en fait, simplement, la ville de Zalem regroupe un peu ce qu'on appelle la classe haute, donc tout ce qui est les riches, et tous leurs déchets tombent sur ce qui reste à peu près de la terre, où c'est une ville, bien sûr, de décharge, une ville chaotique où se passent les plus horribles crimes, où regroupent tous les plus grands criminels restant encore de la planète Terre. Une ville qui rappelle un peu Blade Runner ou même encore Metropolis.
La théorie du ruissellement, finalement.
Exactement. Métropolis qui a bien sûr cette structure de la classe pauvre en bas, dans les sous-sols, qui est surplombée par bien sûr la classe riche. D'ailleurs, petite anecdote, est-ce que vous savez en quelle année ça se passe Métropolis de Fritz Lang, sorti bien sûr en 1927, il y a 100 ans déjà maintenant.
En quelle année ça se passe?
Ouais, dans la fiction, dans le monde de Métropolis.
Je l'avais noté, rajoute.
Quel dommage.
Je vais vous dire, c'est en 2026. Bonne année. Voilà, donc Métropolis se passe. Donc dans cette année-là. Donc on retrouve un peu ces thèmes de la ville. Donc c'est une ville violente qui va aussi avec cette distraction puisqu'il y a le motorball. C'est une course de vitesse qui mêle un peu comme le roller. Actuellement, il y a du roller où il y a des courses et ça se pousse un peu. Bah, là, c'est pareil, mais ça se tue. Il y a des colisées, bien sûr, où il y a des arènes. Exactement, où des opposants cyborgs s'affrontent, puisque bien sûr, dans la ville futuriste, les cyborgs sont là. Et il y a même aussi une catégorie de personnes qui s'appellent les Hunter Warriors, qui sont des espèces de cyborgs payés par la ville du haut pour chasser un peu les criminels ou pour simplement se faire de l'argent dans la ville du bas, dans l'âge des charges. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cette ville? L'histoire, c'est qu'on a un docteur mécanicien qui s'appelle Ido. Un peu une espèce de Gepetto, un docteur Frankenstein qui récupère une tête de cyborg dans la décharge, une tête qui est encore en vie, et il décide du coup de lui refabriquer un corps, un peu à l'image de la fiancée de Frankenstein ou de Pinocchio comme je disais. Et en fait, donc, on va avoir là notre personnage principal qui s'appelle Gally, qui est donc un robot qui a perdu la mémoire. Donc c'est elle a l'apparence d'une jeune fille assez innocente, assez gentille, mais qui en fait a des réflexes plutôt particuliers puisqu'elle sait se battre et tuer parce que elle a bien sûr perdu toute trace de son passé. Et donc le manga va un peu révéler petit à petit comment elle va retrouver son nom, comment ça se fait qu'elle sait se battre et comment aussi elle va évoluer dans cette ville terrible avec pourquoi pas des rêves d'atteindre la ville du haut Zalem. Voilà.
Mais il y a un film qui est sorti.
Il y a un film qui est sorti en 2019 de Robert Rodriguez, produit par James Cameron, parce que de base c'était James Cameron qui devait le réaliser,
bon,
mais il est bien sûr trop occupé avec la série Avatar. Et donc le film est très très beau visuellement.
Je me rappelle plus comment ça s'appelait.
Ça s'appelle Alita Battle Alita. Angel, parce que Alita c'est le nom de notre protagoniste dans la version américaine. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé. Elle s'appelle Gally aux États-Unis, elle s'appelle Alita. Pourquoi pas? C'est des histoires de traduction de toute façon. Et donc le film est très beau visuellement. Ça permet d'entrer un peu dans l'univers, on va dire, sans lire le manga, mais c'est pas très détaillé, le scénario est pas très bon et ça aborde pas autant les thèmes de la recherche d'identité, même comment évoluer dans un monde comme ça où les criminels il y a cette hiérarchie des pauvres, des riches, voilà. Donc
intéressant. Il y a un animé qui est pas mal aussi que j'avais acheté en VHS à l'époque.
Du coup c'est sorti dans les années 90. Donc
je l'ai encore.
Attends,
on sait jamais des fois que
voilà.
Merci Joris.
9 tomes, ça va.
9 tomes et c'est fini.
Oui, bien sûr, 90-95, c'est terminé depuis maintenant 30 ans.
Bon, ben, impeccable, je le dirai quand j'aurai fini les 23 tomes de Demon Slayer. Merci Joris.
Avec plaisir.
Merci à vous toutes et à vous tous.
On a de quoi explorer, hein, on peut voyager là.
Ah, ah mais carrément, finalement, ce thème des villes et campagnes était assez riche et hyper intéressant.
On n'a pas trop parlé de la campagne, mais bon.
Ah, oui, oui, oui.
En période d'élection, c'est pas bon.
Alors, on vous donne rendez-vous le mois prochain. Et puis, n'oubliez pas, le fin janvier, le 31 à
Venez nombreux.
Venez nous voir et puis voir les auteurs qui seront là.
Il y en a beaucoup. Hein.
Il y en aura pas mal, une quinzaine, je crois.
Beaucoup, ouais.
Et tous ceux de l'association Phylactère. Ouais. Ben, merci beaucoup.
Et ben, merci à tout le monde. À bientôt.
À bientôt.
Merci, Joris.
Au revoir.